www.radioscoop.fr.
Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
En attendant, je ne peux pas dire qui aura le pouvoir, puisque j'ai le pouvoir d'abord. Qui aura le pouvoir, ça je voudrais bien savoir aussi, mais pour le moment, jusqu'à présent, j'ai le pouvoir que le peuple m'a confié. Si ceux qui veulent prendre le pouvoir, ils ne l'ont pas encore.
C'est sûr, ils ne l'ont pas encore. Et le président Lansana Conté ne compte pas le leur céder tout de suite. Les élections présidentielles qui s'annoncent au cours de l'année 1998 seront les secondes depuis qu'il a arraché par la force le pouvoir une semaine après la mort de Sékou Touré en 1984. Oubliez le putsch militaire manqué, le deuxième, qui en février 1996 a failli lui coûter son fauteuil. Au second plan aussi, la tension frontalière qui l'oppose à ses voisins du Libéria et de Sierra Leone. Au second plan également, le syndicat des chefs d'État qui, selon lui, veulent le renverser et apporter les troubles en Guinée. Il faut d'abord se faire réélire. Le scrutin est prévu pour le mois de décembre 1998. Un scrutin sous haute tension. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée.
Aujourd'hui, la Guinée est menacée à ses frontières. Toutes ses frontières, on est menacé. Essentiellement, les frontières de la forêt et de la Basse-Guinée, avec la Sierra Leone et le Libéria. Nous entendons des informations qu'on ne dit pas parce qu'on n'est pas alarmiste, on ne veut pas être alarmiste. Nous voulons que le peuple de Guinée reste tranquille. Nous voulons la paix dans notre pays. Mais il y a des choses qui se préparent à l'extérieur contre la Guinée. Il y a des armes qui s'introduisent, il y a des hommes qui viennent pour perturber la paix et la quiétude dans le pays.
Même si au cours de cette année 1997, les tensions frontalières avec le Libéria et la Sierra Leone constituent l'un des sujets, l'une des préoccupations du gouvernement de Lansana Conté, le président est plus soucieux d'une toute autre échéance, le scrutin présidentiel qui s'annonce, le second de son règne. Il est prévu pour le mois de décembre. Pour ce rendez-vous, le chef de l'État qui a déjà créé un an plus tôt le poste de premier ministre, qu'il a attribué à Sidya Touré, de la minorité Diakanka, qui n'appartient pas vraiment à un parti politique, va mettre ses troupes en ordre de bataille. C'est ainsi qu'il procède à un important remaniement du gouvernement en octobre 1997. Il faut convaincre. Et son premier ministre, Sidya Touré, le diplômé de l'École nationale du Trésor de Paris, va cette fois-ci s'employer à lui donner un bilan. Même si cela reste limité à des zones géographiques, l'eau coule à nouveau des robinets des Guinéens. Et les liens avec l'Union européenne sont renoués. Le chef de gouvernement va même parvenir à convaincre les partenaires au développement de lui accorder leur soutien. En un an, il dégage 258 millions de financement. Il parvient au point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre et très endetté, ce qui permet de bénéficier d'une aide financière du Fonds monétaire international. Sur le plan intérieur, il travaille à assainir le fichier de la fonction publique. Dans le même temps, dans le camp de l'opposition, ce n'est pas vraiment la sérénité. Ce n'est pas le front commun, pas l'unité contre le régime. Les vifs désaccords internes qui ont secoué la coordination de l'opposition démocratique sur l'opportunité des négociations avec le pouvoir ont laissé des traces. Les rivalités entre les différents leaders qui la composent font rage. Jean-Marie Doré, le chef de l'UPG, l'Union pour le Progrès de la Guinée, a même carrément claqué la porte de cette coordination où les grands leaders se regardent en chaîne faïence. Mais cette division ne profite pas forcément au président Lansana Conté, qui doit faire face au mécontentement populaire qui ne faiblit toujours pas. Et c'est dans un climat de crise et de violence que les Guinéens se rendent aux urnes en décembre 1998. Un scrutin sous haute tension auquel participe encore le docteur Alpha Condé de retour au pays. Avec lui, trois autres candidats de l'opposition et bien sûr, le président Lansana Conté. Quelques jours avant le vote, Conakry est le théâtre de violents affrontements. on va déplorer 6 morts et une quinzaine de blessés. Malgré la contestation et les heurts, le président Lansana Conté a déclaré le jeudi d'après, dans un calme apparent dans la capitale, vainqueur de la présidentielle dès le premier tour, avec 56,12% des voix. Il est suivi de Mamadou Boyba, 26,6%. Alpha Condé est troisième, avec 16,58%. Encore un passage en force. L'opposition déclare qu'elle ne reconnaîtra pas cette proclamation issue des fraudes massives. Pour elle, ces résultats sont mathématiquement impossibles. Pourtant, les observateurs étrangers présents à Conakry pour ce scrutin vont déclarer que le vote s'est bien déroulé et que les éventuelles irrégularités ne remettent pas en cause les résultats. Le leader du Rassemblement du peuple de Guinée, qui avait senti venir la menace sur sa personne, s'est mis quelque temps avant le scrutin à l'abri, au vert, dans l'extrême sud-est du pays, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Il est arrêté 2 jours après la proclamation des résultats dans les régions de Lola, à 1000 kilomètres au sud-est de Conakry, dans des circonstances rocambolesques. Il est accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Le régime Conté l'accuse d'essayer de recruter, entraîner et introduire des mercenaires en Guinée et combattre en vue de remplacer par la force le gouvernement de la République. On parle aussi de tentatives de transfert frauduleux à l'étranger de devises et de violences sur les agents de la force publique. Et même de violation d'un décret ordonnant la fermeture des frontières terrestres pour l'élection présidentielle. Alpha Condé est arrêté malgré l'immunité que lui confère son statut de député. Et les protestations de son mouvement qui rejette toutes ces allégations seront sans effet.
L'arrestation d'Alpha Condé, le leader du RPG, a provoqué une certaine nervosité à Conakry. Le quartier de Madina, fief du RPG, est bouclé par des policiers assez nerveux. Les voitures ne peuvent pas passer, pas plus que les journalistes. Selon les autorités, Alpha Condé a été interpellé, déguisé en marabout, près de la ville de Lola, alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière avec la Côte d'Ivoire, ce qui est interdit depuis le 5 décembre et jusqu'au 20. Mais pour les cadres du RPG, c'est faux. Condé, parti à Lola pour des raisons de sécurité, n'envisageait nullement de quitter le pays.
L'arrestation du leader de l'opposition va provoquer à Conakry et dans son fief de Haute-Guinée des manifestations violentes qui se soldent par plusieurs morts et des dizaines de blessés. Pour le président Conté, le principal adversaire est neutralisé. L'emprisonnement d'Alpha Condé va susciter de nombreuses réactions de soutien sur le plan international. Des comités se créent au Sénégal et en France pour exiger sa libération. Et le président Conté est régulièrement interpellé sur cette incarcération. L'artiste Tikenja Fakoli écrira même une chanson adressée au président guinéen qui va devenir un hymne à la gloire des martyrs et des prisonniers politiques africains. Le chef du RPG, de sa prison, va recevoir entre autres le soutien du chef de la diplomatie américaine, Madeleine Albright, lors de son déplacement dans la capitale guinéenne. Mais pour les grandes nations, même si les organisations des droits de l'homme dénoncent les violations flagrantes dont se rend coupable le régime, le président Lansana Conté reste fréquentable. C'est dans ces conditions que le président Jacques Chirac, qui entame une grande tournée africaine, effectue une escale importante à Conakry, chez son ami le président guinéen.
J'ai pour le président Conté, et depuis longtemps, un très grand respect fondé sur une réalité. C'est que le président Conté est un homme de paix. Et je crois qu'avec la démocratie, la paix est le besoin le plus important de l'Afrique d'aujourd'hui. Et quand on voit, y compris dans cette sous-région, ce qui se passe, on se dit qu'on a vraiment besoin d'hommes de paix.
Malgré tout, au menu des discussions lors de cette visite de Jacques Chirac, Alpha Condé.
J'ai évoqué ce problème avec le président, non pas pour faire d'ingérence dans les affaires de la Guinée, mais parce que nos relations personnelles et amicales me permettaient de le faire. Et j'ai compris que l'intention des autorités guinéennes était de faire en sorte que l'instruction soit menée le plus rapidement possible et dans le sérieux et la sérénité de la justice, et qu'ensuite le procès soit un procès tout à fait transparent et que chacun pourra observer, et à partir de là, naturellement, la décision appartient à la justice de Guinée. Mais peut-être que le président peut ajouter un mot.
Non, je n'ai rien à ajouter, c'est ce qu'on a dit.
C'est ce qu'ils se sont dit. Et c'est dans ce cadre qu'une cour spéciale est constituée pour juger Alpha Condé en 2000. Un tribunal militaire entièrement acquis au régime Conté.
Vous savez, un procès de ce genre, avec l'indépendance de la justice, nous n'avons pas le droit de précipiter les choses politiquement. Ce n'est pas toutes les choses qu'on arrange politiquement. Il faut que le monde, l'opinion internationale, soit au courant de la vraie vérité. Et ce n'est qu'avec la justice qu'on peut l'obtenir.
Êtes-vous prêt à accorder le pardon si jamais Alpha Condé était condamné?
Ça dépendra de la condamnation que la justice va faire. Et ça dépendra certainement de son comportement à lui-même. Parce que quand on est accusé, qu'on reconnaît sa faute, vous savez le dicton, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Il faut que nous soyons clairs dans ce qui se passe. Nous n'avons pas le droit de l'accuser inutilement. Quand on l'accuse, il faut qu'il se défende. C'est le droit qu'il veut. Nous voulons respecter le droit de tous les citoyens. Il faut que les citoyens respectent les lois du pays. Quant à le pardonner, ça ne dépend pas de moi, ça dépendra peut-être de lui ou de son comportement futur.
Le procès du leader du Rassemblement du peuple de Guinée s'ouvre le 12 avril 2000. Alpha Condé, qui jusque-là avait refusé de s'expliquer sur les accusations, sort enfin de son mutisme pour battre en brèche toutes ces allégations fantaisistes, pour reprendre son expression. Il va également récuser les avocats commis d'office par le tribunal après qu'un collectif des défenseurs se fût retiré pour ne pas cautionner un procès politique. Après 5 mois de procès, le procureur réclame pour lui et ses co-accusés la perpétuité. Mais Alpha Condé est finalement condamné à 5 ans de réclusion criminelle. 7 de ses co-accusés écopent de peine de 18 mois à 3 ans de prison, alors que 40 autres bénéficient d'un non-lieu ou sont acquittés. Pour les partisans de Condé, c'est une injustice inacceptable. Le président Lansana Conté lui accordera sa grâce l'année d'après. Mais cette remise de peine ne constitue pas une amnistie. Elle lui interdit donc de reprendre ses activités politiques. Entre-temps, sur le plan politique, le président Lansana Conté a procédé à un remaniement ministériel. Le premier ministre Sidya Touré a été remplacé par Lamine Sidimé. Et le chef de gouvernement sortant est passé dans l'opposition et a créé son propre parti, l'Union des Forces Républicaines. Et c'est dans ces conditions que l'on arrive aux élections communales de mai 2000, qui encore une fois vont être suivies de violentes manifestations. Bilan, 5 morts. Les populations dénoncent le retard dans la proclamation des résultats.
Il n'y a pas de malentendu entre le Libéria et la Guinée. Il y a que la Guinée n'accepte pas ce que le Libéria entend faire, veut faire à la sous-région. La Guinée, donc, qui est un pays de paix, ne peut pas s'entendre avec celui qui fait la guerre. C'est ce problème qu'il y a entre, pas le Libéria et la Guinée, mais entre Charles Taylor et Conté. L'un est fausseur de guerre, l'autre est pour la paix. Si nos frères qui sont les fauteurs de guerre écoutent, acceptent d'écouter le président Lavajanjo, je pense que beaucoup de nos problèmes vont trouver leur solution.
L'année 2000 est aussi celle du conflit frontalier entre la Sierra Leone et le Libéria qui s'est traduit dans le sud du pays par des violents affrontements avec des rebelles venus des deux pays.
En Afrique, la dissidence armée devient un phénomène qu'il convient de juguler par le dialogue et l'ouverture démocratique. La situation en République sœur du Libéria continue de nous préoccuper. Malgré l'accalmie intervenue grâce à l'interposition de l'ECOMOC, la mise en place effective des mécanismes de paix prévus par la CEDEAO est entravée par l'attitude versatile de certaines parties au conflit. La récente rencontre manquée de Monrovia est éloquente à ce sujet. Je lance un appel à tous les États de notre sous-région pour œuvrer ensemble et effectivement au retour de la paix au Libéria.
Juillet 2001, le président Lansana Conté effectue une visite en Russie. Cela fait quelque temps qu'une rumeur circule sur son état de santé. On le dit malade. Et ses déplacements à Moscou offrent l'occasion à ceux qui le pensent agonisant ou souffrant d'une maladie grave d'alimenter leur argumentaire. Christophe Boisbouvier va joindre le président Conté en personne.
Est-ce que la visite s'est bien passée? Oui, la vie se passe bien. La vie, je pas à l'hôpital, hein. Bien visité les autorités, tout s'est bien passé. Je suis assis comme ça dans le bureau de mon ambassadeur. Je vais bien, c'est chez vous que ça ne va pas du tout.
Ah, expliquez-moi pourquoi alors.
L'agence linguistique et vous-même, vous êtes tous des fous.
Ah bon?
Ouais, ouais, vous êtes des fous. Vous racontez des histoires.
Donc vous êtes en parfaite santé?
Ah là là, si vous ne croyez pas, venez à Conakry demain, assistez à mon arrivée.
On a eu une dépêche de l'agence Novosti qui disait que vous aviez été hospitalisé.
Je ne crois pas que ce soit l'agence Novosti qui a dit ça. De toute façon, les autorités de Moscou vont s'occuper de ça. Moi, je n'ai plus rien à dire à qui que ce soit. C'est vrai que je suis en plus bonne santé, en meilleure santé que vous. Dites ce que vous voulez, en tout cas, moi, je suis en bonne santé.
Bonne santé ou pas, le président Conté tient encore à ce moment-là la barre du navire guinéen. Il va même parvenir à faire passer au forceps en novembre 2001 une réforme constitutionnelle qui lui permet de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Ce référendum qui obtient un score à la soviétique, 98,4% des voix, réduit la décentralisation et prolonge aussi le mandat présidentiel de 2 ans. Dans la foulée, l'année d'après, en juin 2002, alors que les principaux mouvements politiques boycottent les élections législatives qu'il organise, il s'arrange pour que le parti présidentiel remporte à nouveau la majorité à l'Assemblée nationale. Il obtient 61,5% des suffrages et 85 des 114 sièges à pourvoir. Il est donc le seul maître à bord. Mais si la rumeur sur sa maladie constitue le principal sujet du moment, le vieux général n'est pas à court d'idées. Pour occuper l'opposition et mieux la diviser, il va lancer l'idée d'une concertation entre elle et lui, à travers un comité interministériel de discussion dans lequel aucun sujet n'est tabou. Mais ce dialogue national va surtout contribuer à diviser l'opposition qui décide de ne plus participer à ces réunions. Le principal sujet dans cette période porte sur la santé du président que l'on ne voit plus, qui serait agonisant. Mais avec les échéances qui approchent, le chef de l'État joue sur ses rumeurs pour entamer sa campagne.
Tout citoyen peut s'exprimer où il veut, quand il veut, qu'il appartienne oui ou non à un parti. Les libertés d'association, nous n'avons pas interdit. Ce que nous interdisons, c'est freiner l'action du Comité militaire de redressement national en créant des partis d'opposition. Les libertés d'association, tous les Guinéens l'ont. Mais les libertés d'association que nous voulons maintenant, c'est les libertés d'association pour le travail et non pas pour freiner notre travail. Les partis politiques, ils sont très importants. Quand le travail sera lancé, j'ai dit tout à l'heure, quand nous saurons que tous les Guinéens se sont responsabilisés, hein, chacun veut travailler dans l'intérêt du pays, rien ne nous empêche d'accepter les partis politiques.
Le président malade est candidat à sa propre succession. Une idée qui ne plaît pas du tout à l'opposition qui organise le 11 octobre 2003 un meeting devant plusieurs milliers de personnes pour dire qu'il va de l'intérêt de tous d'empêcher le président malade et au pouvoir depuis 20 ans de briguer un troisième mandat. Mamadou Ba, président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, suggère même l'idée d'une candidature unique de l'opposition. Une idée à laquelle ne croit pas du tout le président Conté qui lance sur les routes de Guinée sa machine électorale avec un slogan « Éternité et santé à l'Ansana Conté ». Dans le camp de l'opposition, on se divise. Avant même que la date des élections ne soit fixée, Sidia Touré, ex-premier ministre, est candidat. Le chef de l'État, bien qu'absent en raison de sa santé, marque des points sur le terrain. C'est assis dans son véhicule que le président, l'Ansana Conté, va voter. On lui a porté l'urne jusqu'à la voiture parce que son état de santé s'est dégradé, parce qu'il ne pouvait plus marcher. Mais il a voté. Et c'est sans grande difficulté qu'il va être élu en ce mois de décembre 2003 avec 95,63% des suffrages face à un seul adversaire, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à cette parodie d'élection courue d'avance. Mais comment la Guinée peut-elle fonctionner avec un président nouvellement élu aussi malade? Comment compte-t-il s'organiser malgré sa maladie pour faire fonctionner le pays? Et l'armée qui, dans ce type de circonstances, récupère souvent le pouvoir en Afrique, va-t-elle rester en dehors du jeu politique? Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée.
Merci d'écouter RFI.
Les Archives d'Afrique. Alain Focard.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Tous
citoyen peut s'exprimer où il veut, quand il veut, qu'il appartienne oui ou non à un parti. Les libertés d'association, nous n'avons pas interdit. Ce que nous interdisons, c'est freiner l'action du Comité militaire de redressement national en créant des partis d'opposition. Les libertés d'association, tous les Guinéens l'ont. Et mais les libertés d'association que nous voulons maintenant, c'est les libertés d'association pour le travail et non pas pour freiner notre travail. Les partis politiques, ils sont très importants. Quand le travail sera lancé, j'ai dit tout à l'heure, quand nous saurons que tous les Guinéens se sont responsabilisés, hein, chacun veut travailler dans l'intérêt du pays, rien ne nous empêche d'accepter les partis politiques. Mais pour le moment, eux, les Guinéens, ils n'ont qu'à d'abord se mettre au travail pour développer leur pays.
Décembre 2003. Malgré une santé chancelante qui fait l'objet de toutes les rumeurs et qui chaque jour apparaît aux yeux de ses compatriotes, Lansana Conté, qui a été obligé de se faire porter l'urne à sa voiture pour pouvoir accomplir son devoir d'électeur, est à nouveau élu à la présidence de la République de Guinée, avec un score fleuve, 95,63% des suffrages exprimés. Il faut dire qu'en face de lui, il n'y avait qu'un seul candidat, un seul adversaire, les autres opposants ayant préféré ne pas participer à cette parodie d'élection courue d'avance. Mais celui qui se fait ainsi à nouveau légitimé par les urnes, qui gouverne la Guinée depuis la mort du père de l'indépendance, Sékou Touré, depuis 19 ans donc, est malade. C'est d'ailleurs ses visites intempestives chez les médecins à travers le monde qui alimentent désormais les rumeurs et les colonnes des médias internationaux. Mais malgré cette santé fragile, il tient toujours fermement la barre du navire guinéen, malgré les mouvements d'humeur, de protestation qui de plus en plus se multiplient. Mais l'armée, constituée essentiellement de la minorité Soussou, son ethnie, est encore à son service et lui voue toujours un réel respect. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, 60 ans d'indépendance de la Guinée. Ce début d'année 2004, le président Lansana Conté, nouvellement élu, doit faire face à une opposition qui n'accepte pas le nouvel hold-up électoral qu'il vient d'opérer. Le climat politique est particulièrement tendu. Les partis d'opposition, notamment l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, dénoncent, je cite, « des violations graves des droits de l'homme et des dérives intolérables ». Mais le vieux général en a vu d'autres. Et les opposants qui s'agitent, qui lui tiennent tête, ne vont pas tarder à en payer le prix. Sidya Touré, l'ancien Premier ministre, va même faire l'objet au mois d'avril 2004 d'une brève garde à vue et d'une interdiction de quitter le territoire, avec également injonction de ne plus participer à des réunions et autres manifestations politiques. Le 1er mai 2004, c'est au tour de François Lousseni Fall, nommé quelques mois plus tôt, en février, de profiter d'un voyage à l'étranger pour présenter sa démission du poste de Premier ministre. Il justifie sa démission par l'impossibilité pour lui d'engager les réformes annoncées par le gouvernement. C'est le quatrième premier ministre du président Conté qui donne sa démission. Au mois d'août 2004, un mouvement d'opposition jusque-là clandestin, le mouvement des jeunes partisans du changement, appelle à une grande manifestation dans la capitale Conakry pour demander le départ du président Lansana Conté. La date choisie, du 27 août, est symbolique, parce qu'en 1977, une manifestation de femmes sous le régime de Sékou Touré avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Cette fois, c'est le mécontentement des étudiants qui réclament une amélioration de leurs conditions de vie, une augmentation de leurs bourses, et qui pour se faire entendre ont bloqué les universités. Ils vont être matés par les forces de l'ordre qui, en septembre, interviennent pour ouvrir le campus de l'Institut agronomique Valéry Giscard d'Estaing de Farana, à 400 km à l'est de Conakry. Plusieurs centaines d'étudiants grévistes sont arrêtés et placés en détention dans un camp militaire de la ville. Mais ce coup de force ne calme pas les choses, bien au contraire. La contestation se fait de plus en plus entendre malgré la brutalité policière. C'est dans ces conditions de fortes tensions sociales et politiques, avec un président malade, que l'on voit de moins en moins qu'est nommé un nouveau premier ministre. Le poste était vacant depuis le départ de François Lousseni Fall. Le nouveau premier ministre s'appelle Sélou Dalène Diallo, ancien employé de la Banque centrale. Le président Lansana Conté compte sur sa formation d'économiste et sur la crédibilité dont il joue au niveau des instances financières internationales pour relancer la machine économique guinéenne depuis longtemps déjà à l'arrêt.
À cette occasion solennelle, le nouveau Premier ministre guinéen a annoncé ce que seront à court terme les priorités de son gouvernement. Ceux-ci ont pour nom la restauration de l'équilibre macroéconomique afin de mieux maîtriser l'inflation et le taux de change, l'amélioration de la fourniture d'eau et d'électricité aux populations, l'amélioration des réseaux de télécommunications et de transport urbain, le renforcement de la bonne gouvernance. Il s'agit en réalité pour le gouvernement, selon Serouz Alain Diallo, de poursuivre avec détermination et efficacité la mise en œuvre des actions programmées dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Mais pour cela, le gouvernement devra s'employer, dit-il, à la normalisation de ses relations avec la communauté financière internationale, indispensable pour mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Mais pour réussir cette gigantesque tâche, Serlou Dialen Diallo a exprimé devant les membres de son gouvernement et les cadres du cabinet de la primature son entière disponibilité à cultiver la transparence, la concertation et la solidarité pour la recherche de solutions aux problèmes qui s'opposent à la Guinée, qui figure malheureusement sur la liste des 10 pays les plus pauvres de la planète. Mokhtar Bakonakri, RFI.
Cette nomination ne va pas calmer la colère des partis d'opposition qui n'acceptent toujours pas les résultats des élections communales du 18 décembre 2004. L'Union pour le Progrès et le Renouveau, l'UPR, le principal parti d'opposition, pour manifester son indignation face à cette farce électorale, va se retirer de l'Assemblée nationale et de la Commission électorale nationale. Mercredi 19 janvier 2005, 10h du matin. Lansana Conté quitte son village de Wava, où il passe désormais le plus clair de son temps depuis plusieurs mois, pour rallier Conakry, la capitale. Une escorte légère, composée de deux Land Cruiser et une Jeep militaire, cerne son véhicule qui roule comme d'habitude à tombeau ouvert. Le convoi avale en une heure la centaine de kilomètres de trajet. Il entre dans la capitale aux environs de 11h par le quartier Koza, dans la commune de Matoto. En raison d'un dodane qui marque le passage à niveau, croisement entre la rue du Prince et la voie ferrée reliant Conakry à Fria, le cortège ralentit. Puis d'un coup, une demi-douzaine d'hommes en armes surgissent et ouvrent le feu sur le cortège présidentiel. Plusieurs balles atteignent l'aile droite de la Nissan Patrol grise, flamant neuve, dans laquelle se trouve le chef de l'État. Les gardes du corps de Lansana Conté bondissent hors de leur voiture pour riposter. Mais ils sont à leur tour pris pour cible par d'autres assaillants postés au troisième étage d'un immeuble qui surplombe le passage à niveau. Deux des gardes du président sont touchés, l'un à l'épaule, l'autre plus grièvement à la poitrine et au cou. Les véhicules présidentiels démarrent en trombe, laissant derrière eux leurs agresseurs qui, à leur tour, s'évanouissent aussitôt dans la nature. Dans leur fuite, ils abandonnent sur les lieux une Mazda bleue remplie de munitions. 11h30, Lansana Conté indemne arrive au Petit Palais, le siège de la présidence. Le périmètre administratif et la radiodiffusion guinéenne, la RTG, sont bouclés par les forces de sécurité. Le chef de l'État convoque une réunion de crise à laquelle assistent tous les membres du gouvernement. À l'exception de Serlou Dialen Diallo qui est en déplacement à Accra au Ghana pour le sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État met sa machine répressive en route. Il faut trouver rapidement les auteurs de cette tentative d'assassinat. Après la réunion de crise, le chef de l'État appelle son ami l'homme d'affaires Mamadou Sylla avec qui il s'entretient plusieurs heures dans une atmosphère détendue. Puis le soir, à la télévision nationale, dans un message radio-télévisé, le président Conté pointe du doigt les auteurs de ce putsch mal préparé. Les auteurs sont à l'étranger. Il dit connaître les instigateurs de l'attentat. C'est le début d'une purge et d'une chasse à l'homme sans pitié. Plusieurs centaines de civils et de militaires sont arrêtés. C'est dans ces conditions que le régime organise des élections en décembre 2005 pour élire 4000 conseillers communaux et communautaires. Cette fois-ci, l'opposition n'a pas appelé au boycott du scrutin, contrairement à l'élection présidentielle de 2003. Scrutin à nouveau remporté par le Parti de l'Unité et du Progrès, le PUP, de Lansana Conté. Un nouvel hold-up électoral qui va susciter de vives réactions dans l'opposition. La Guinée vit désormais au rythme des contestations et des bulletins de santé de son président malade. Une quinzaine de partis d'opposition, associés à des membres de la société civile, vont lancer un appel pour la formation d'un gouvernement de transition en raison des incertitudes politiques liées à l'état de santé du chef de l'État. Cette fois-ci, devant cette forte pression, au mois de mars 2006, la Radio Nationale elle-même va annoncer son hospitalisation en Suisse. Le président Lansana Conté va sortir lui-même du silence pour rassurer à sa manière.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Un seul titre pour ce bulletin d'information. Le président de la République suit ses soins médicaux en Suisse. Reste avec nous pour le détail.
Depuis ce mardi à la mi-journée, la Radio Nationale guinéenne diffuse des bulletins rassurants sur le chef de l'État.
Ce début de semaine a été marqué par des contre-vérités sur l'état de santé du président de la République.
Et elle a obtenu une très courte interview de Lansana Conté qui a également dit quelques mots au téléphone depuis Genève à la rédaction de RFI.
Vous êtes à la recherche de sensations, toujours. Est-ce que ma santé vous regarde? Vous n'êtes pas guinéen, ma santé ne vous regarde pas.
Cela dit, les autorités guinéennes reconnaissent désormais clairement que le chef de l'État est en Suisse pour des raisons médicales. Aboubakar Sompare, président de l'Assemblée nationale.
Nous savons qu'il est actuellement en Suisse et qu'il est sous traitement.
Reste que la santé du président guinéen est une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Dans un éditorial, la télévision et la radio nationale mettent en cause une certaine presse étrangère. Mais pour l'opposant Jean-Marie Doré, ce sont les autorités qu'il faut pointer du doigt.
Si on avait fait des bulletins de santé clairs, annoncer que le président sera absent du pays parce qu'il a besoin de consulter de bons médecins en Suisse, personne n'aurait été fait des spéculations.
De son côté, le ministre de la Sécurité, Kiridi Bangoura, dément les informations alarmistes sur la santé de Lansana Conté, mais beaucoup de Guinéens attendent son retour annoncé d'ici quelques jours pour croire ses propos rassurants.
Sur le plan politique, le torchon brûle entre Lansana Conté et son premier ministre, Sélou d'Alain Diallo, entré en fonction en décembre 2004. 7 avril 2006, quelques heures seulement après avoir signé un décret lui confiant des pouvoirs étendus, le chef de gouvernement est limogé de ses fonctions pour faute lourde. Le Premier ministre n'aura pas eu le temps de mettre en œuvre son ambitieux programme de redressement de l'économie. Son poste est tout simplement supprimé dans le remaniement ministériel qu'opère Lansana Conté. Le chef de l'État reprend, en somme, la main. Avec un numéro 2 entièrement acquis à sa cause, Fodé Bangoura.
Celui qui a fait le remaniement, il sait pourquoi il le fait. Donc lui, il a ses motivations.
Vous parlez du président Lansana Conté.
Bien sûr.
Pourquoi n'y a-t-il plus de Premier ministre aujourd'hui en Guinée?
Lisez notre constitution, si vous verrez dans tout le texte le terme Premier ministre. Il n'est pas constitutionnel chez nous.
Serez-vous l'homme fort de ce nouveau gouvernement en tant que ministre d'État chargé des affaires présidentielles?
Il n'y a pas d'homme fort. Le seul homme fort, c'est le président de la République.
Mais est-ce que vous aurez un droit de regard sur le travail des autres ministres?
Pourquoi pas?
Donc vous serez une sorte de super ministre, c'est cela?
Il n'y a pas de super ministre, il n'y a que des ministres qui se mettent à travailler pour la République.
Et quel est l'état de santé du président aujourd'hui?
Son état de santé, c'est comme tous les hommes. Il va bien.
Pas d'inquiétude particulière?
Pas du tout.
Malgré ce remaniement et les tentatives de reprise en main du pouvoir de l'État, la contestation dans le pays semble ne pas faiblir. Dès le mois de juin 2006, les Guinéens sont à nouveau dans la rue. Une énième grève paralyse le pays et conduit à des manifestations dans les lycées. Mouvement durement réprimé. 18 personnes tuées et près de 100 blessés. Le 17 du même mois, dans un climat de chaos, un accord est trouvé sur l'augmentation des salaires et la baisse du prix du carburant. Cette fois-ci, la société civile et les partis d'opposition ont obtenu gain de cause. La préoccupation de Lansana Conté, atteint d'un cancer et souffrant du diabète, est, comme il l'exprime d'ailleurs publiquement, de terminer son mandat qui devait normalement s'achever en 2010. En Guinée, même si la contestation se poursuit, beaucoup commencent à se dire qu'il faut laisser la nature faire son œuvre. Mais Lansana Conté n'a pas dit son dernier mot. Décembre 2006. Depuis plusieurs mois, une affaire de corruption agite toute la société guinéenne. Un homme d'affaires, Mamadou Sylla, ami personnel du président Conté, devenu en peu de temps première fortune du pays, accusé d'avoir indûment perçu des fonds publics pour un audit commandité par le premier ministre Sélou d'Alain Diallo, a été incarcéré à la prison de Conakry. Et malgré sa maladie, le président Lansana Conté va trouver l'énergie nécessaire pour se rendre personnellement à la prison civile de Conakry pour faire libérer son ami et un autre de ses proches, Fodé Souma, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, mais surtout ex-vice-gouverneur de la Banque Centrale de Guinée, qui est accusé de complicité avec le riche homme d'affaires. C'est l'indignation dans tout le pays.
Alors justement, vous avez été devant la justice pour une affaire de détournement d'argent. Vous avez été mis en prison et le chef de l'État est allé lui-même vous chercher en prison pour vous libérer. Est-ce que c'est normal ça?
Le chef de l'État établit injustice. Parce que quand même, le chef de l'État aussi, on est le premier magistrat du pays. Et s'il trouve que quelqu'un est victime d'injustice, il a la charge d'éviter qu'on mette quelqu'un en prison à tort. Et c'est ça qui s'est passé.
Mais vous savez que c'est ça aussi qui a été le déclencheur de la protestation, de la colère des populations.
Jamais. Celui qui était là, il a envenimé, il a monté toujours les choses. C'est le ministre d'État qui était là, qui était Fode Bangoura. Tous les contrats qui sont signés, c'est lui qui a signé. Donc si quelqu'un, si moi je devais aller en prison, je devais aller avec lui. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention maintenant avec les hommes politiques là où les gens qui viennent, les dictatures là, pour faire du tort à des citoyens, parce qu'ils ont le manteau de ministre ou bien de pouvoir, c'est tout ce qui est mauvais aujourd'hui. Quiconque va faire ça encore, on se levera contre lui, on va le combattre.
Il en a les moyens, puisqu'il a l'oreille, l'attention du président. Mais cette libération et la manière dont elle s'est déroulée, avec le chef de l'État en personne qui va chercher son ami, va susciter quelques semaines seulement après une grève générale illimitée. Les populations protestent contre la corruption, les détournements de deniers publics et bien sûr l'ingérence du chef de l'État dans les affaires judiciaires. Manifestation objet d'une sévère répression. Bilan, 186 morts. Et ces grèves n'entament en rien la confiance dont bénéficie l'homme d'affaires auprès du chef de l'État. Son entreprise, Futurelec, est blanchie de toutes les accusations qui pesaient sur elle. C'est d'ailleurs l'un des personnages qui va amener le chef de l'État à destituer quelque temps après, en mai 2008, le premier ministre Lansana Kouyaté, nommé un peu plus d'un an plus tôt sur proposition des syndicats et sous la pression de la communauté internationale. Lansana Kouyaté est remplacé par un technocrate proche du clan présidentiel, Ahmed Tidiane Souaré. Mamadou Sylla jubile.
C'est vrai, je suis content si vous me demandez. Vous savez, moi, je défends toujours l'ordre constitutionnel. Et je crois que 9 jours avant le limogeage de M. Kouyaté, j'ai dit que je voulais qu'on arrête tout ce qui se passe et que l'ordre constitutionnel soit respecté. Et tout ce que je demande au gouvernement, c'est respecter aussi, nous respecter. C'est-à-dire le secteur privé guinéen. Parce que sans ça, je crois que le développement ne sera pas facile.
Malgré ce remaniement, la Guinée continue de vivre au rythme des grèves, des manifestations diverses. Les populations sont à bout. Le pays, au riche potentiel, n'offre ni eau, ni électricité aux habitants. Aux grèves dans la rue succèdent quelques remous vite négociés dans les casernes, ponctués de commentaires sur l'état de santé du président qui pourtant continue de tenir la barre. C'est dans son village que les très proches vont le voir. C'est de là-bas qu'il gouverne. Mais ce silence, cette absence de la scène nationale, alimente les rumeurs les plus folles, notamment les crises et les comas diabétiques dans lesquels il serait plongé. Et pourtant, ses proches continuent d'assurer qu'il tient toujours la barre du navire. Et cela, malgré une absence très remarquée lors des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre 2008. Mais en réalité, pour beaucoup, il convient tout simplement d'attendre. Mais jusqu'à quand? Et après, que se passera-t-il? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Mais vous pouvez réécouter cette série sur le site de RFI à la rubrique Les émissions ou sur archivesdafrique.com. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable, votre téléphone, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour vos réactions, rendez-vous sur notre page Facebook où vous êtes désormais plus de 600 000. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foka nous souhaitent un bon week-end et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle émission du journal sur Radio France Internationale. À très vite.